Boilard 74, la France. Ben oui, aujourd'hui, on est le 14 juillet. Ça a été une journée vraiment magnifique. Je me reconnais pas, il est 21h59. Et puis, non seulement je suis pas couché, parce qu'habituellement, je suis très couche-tôt, mais... C'est parce que je suis en train de regarder... Bon, alors, je vous explique. Aujourd'hui, c'est la fête de la France, donc joyeux anniversaire à la République française, pour prendre les bons mots. Et puis moi, je suis un grand, grand amoureux de la France, manifestement, à cause de l'intellect français. À cause du parler français, donc... Puis pourtant, je ne suis pas un amoureux de la langue française. Il y a des gens qui sont vraiment comme des amoureux de leur langue, puis qui... Je fais pas partie de ce groupe-là. Ça m'intéresse pas, même. J'irais jusque-là. Je suis pas quelqu'un qui a un intérêt dans la langue... Dans l'écrit, dans la littérature en général, je suis un lecteur, oui, mais je ne suis pas un tripeux de la langue française. Il y a des gens pour qui ça vient comme si c'était une catégorie esthétique, comme si la langue française était l'équivalent de la peinture, par exemple. Puis je respecte ça total, mais c'est pas moi. Quand je dis que... Alors, j'aime la façon qu'ils communiquent. L'image que je prends tout le temps, je l'ai déjà dit, c'est que t'écoutes des politiciens en France qui sont totalement opposés, puis t'écoutes un, tu dis « Crime, c'est vraiment bon ce qu'il dit, il a raison », puis t'écoutes l'autre qui est le contraire, puis tu dis la même affaire. « Ah, oh, wow, c'est vraiment lui qui a raison. » C'est vraiment génial. Puis c'est pas parce que je pense que je suis cave, c'est juste qu'ils ont vraiment un talent pour s'exprimer. Ça me rejoint, bien entendu. Je suis quelqu'un de com, je suis quelqu'un à l'oral, tu sais. Je veux dire, j'ai écrit des livres, puis j'écris, mais c'est pas mon premier talent. C'est vraiment plus de parler, d'avoir de la répartie, d'échanger. C'est plus ça, tu sais. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la France parce que je veux vous dire ce que je trouve génial de ce pays-là, de ce que j'ai vécu, grosso modo. Parce que j'ai toute une histoire, moi, avec Paris particulièrement, tu sais. Quand je suis passé de gérant d'artiste à humoriste, si humoriste, le titre me va, là, c'est même pas clair, mais bon, bref, appelons ça variété, puis rigolo, mettez d'autres mots si vous voulez. Mais bref, mon intention, c'était de faire rire, là. Puis j'ai fait quand même beaucoup de choses, mais ça n'a pas eu des succès retentissants, dans le sens que j'ai joué plein de spectacles, etc. Mais j'ai pas vendu 100 000 billets loin d'eux. Ou, tu sais, j'ai fait des galas du Grand Rire, aujourd'hui comédien, mais j'ai jamais fait moi-même tout seul un gala juste pour rire. J'ai roulé ma bosse. J'ai fait beaucoup de bars. C'est que je peux dire que, honnêtement, quand j'en parle, je sais de quoi je parle. Ça, par contre, c'est vrai. Mais bon, ça a donné ce que ça donnait parce que j'y mettais probablement pas assez d'énergie. Dans le sens que je pense que tu peux faire de la musique à temps partiel. Parce que tu peux écouter de la musique à temps partiel. Tu peux écouter de la musique avec pas 100% de ton attention. Tu peux aller dans un bar spectacle, le band va jouer, puis tu jases un peu avec tes amis, puis à la fin, tu trouves que le band était génial, puis t'as raison. Tu peux pas faire ça avec un humoriste. T'es obligé d'être entièrement concentré. Puis si tu l'écoutes pas, c'est parce que c'est plate. Ou parce que t'es cave, là, c'est A ou B, mais... Tu peux pas, là. Alors, ça demande donc une rigueur. C'est très difficile de prendre un micro pour faire rire du monde. Puis, je suis capable. Je l'ai fait. Je pourrais le refaire. Les textes que j'ai seraient passés date, mais avec des bons textes, je sais exactement ce que je fais. Je suis bon sur un stage, mais j'ai des textes ordinaires. Puis, c'est pas parce que je travaille avec du mauvais monde. Je travaille avec des filles, entre autres, qui étaient super bonnes. Mais tu sais, je veux dire, je mettais pas le temps qu'il faut. C'est tout. C'est vraiment que ça. Puis, il reste que j'ai aimé faire ça. J'ai trouvé ça vraiment comme... C'est extrêmement gratifiant, faire rire des gens. C'est vraiment génial. Puis, mon grand rêve, c'était d'être à l'affiche à Paris. Je trouvais que c'était comme une réalisation de fou. Puis, j'ai cogné à toutes les portes. Puis, pourtant, tous les producteurs me connaissaient. Parce que je travaillais depuis des années avant d'être humoriste moi-même. J'étais gérant pendant 12 ans. Ça fait que je connaissais tout, là, le monde dans le business. Puis, tu vois que personne ne m'a pris au sérieux. Personne ne voyait c'était quoi le edge que j'avais, etc. Pourtant, j'avais fait des essais, moi, en France, à Paris notamment. J'avais fait deux petits essais, une fois organisé avec les HEC, où j'avais donné une conférence au HEC de Montréal, puis j'avais dit, à l'époque, on devait être à peu près en 2003-2004, que je rêvais d'aller jouer à Paris, puis il m'a dit, hey, on pourrait t'organiser un spectacle. On peut pas te payer pour que tu y ailles, mais on peut te remplir une salle, réserver une petite salle, puis ça va être une activité pour la gang des HEC de Paris. Puis c'est ce que j'ai fait. Et ce soir-là, qui était mon deuxième spectacle à Paris à vie, j'ai fait 1h45 pendant le track, j'étais halluciné. Puis croyez-moi, personne ne s'est ennuyé. C'était furieux. Ça fait que j'ai vraiment fait comme crime, c'est juste, ça marche, là. T'sais, on se contera pas d'histoire, là, ça marche. Ça marche et ça va marcher. T'sais, j'ai juste à me trouver une porte d'entrée. Puis cette porte d'entrée-là, elle a pris 5 ans. 5 ans de temps à frapper à toutes les portes, environ 3 fois par année, toujours à mes frais, aller chez des amis, coucher ses divans, tu sais, puis j'avais pas 22 ans, là, si j'avais fin trentaine, tu sais. Et en 2009, à un moment donné, en 2008, pour être précis, en juin 2008, j'ai fait une audition un dimanche à 4 heures au Blanc-Manteau, qui m'avait été booké par un agent de tournée là-bas, qui m'avait été, lui, présenté par mon chum Guy Laforce. Et puis, voilà, j'ai fait cette audition-là devant, je pense, 8 personnes, puis la directrice artistique, Pascal Courtin. J'ai fait 50 minutes de show, puis elle vient me voir après, puis elle me met les deux mains dessus, tu sais, puis elle fait « Mais tu sors de où, toi? » Puis elle avait vraiment pogné de quoi. Puis effectivement, je suis revenu à partir de janvier, on s'est fait un deal. Donc, 4 janvier 2009, j'ai fait mes premières représentations. J'étais supposé être là 3 mois, puis je suis resté presque toute l'année, jusqu'au 19 décembre, moins une portion de l'été. Puis c'est des souvenirs, jamais je vais regretter de faire ça. Tu sais, quand on dit « faut vivre ses rêves », très peu de monde le font, parce que pour une raison bien simple, hein, c'est pas genre « Ah, ça n'a pas marché, c'est pas ça ». C'est que très peu de monde veulent payer le prix de vivre vraiment leur rêve. C'est juste ça, la réalité. Puis moi, c'était non négociable. Ça coûtera ce que ça coûtera. Ça me demandera les efforts que ça me demandera. Ça va arriver. Et c'est arrivé. Puis tous les jours, j'y pense. Tous les jours. C'est qu'aujourd'hui, c'est le 14 juillet, donc la fête de la France. Et puis, voilà, pour moi, c'était important de vous parler de ça. Puis, je vivais, donc, alors, au niveau du... Si, des fois, il y a des jeunes humoristes qui me demandent, que moi, je serais prêt aussi d'être en France, comment on fait, tu sais? Puis, très honnêtement, j'allais dire, c'est pas pour me vanter. Au contraire, c'est totalement pour me vanter. À ma connaissance, je suis la seule personne au Québec qui a jamais fait 100 spectacles sans aucun producteur à Paris. C'est jamais arrivé avant, c'est jamais arrivé depuis. Il y a peut-être d'autres formes d'artistes, il y a peut-être des chanteurs qui ont réussi à faire des trucs, je sais pas. Mais en humour, non. C'est tout le monde arrive là avec son producteur, avec sa paye. C'est le producteur qui allonge, trouve son appart. Moi, oublie ça. Ça fait que la première étape que je recommande à quelqu'un qui dit j'aimerais ça, vivre cette expérience-là, parce qu'il faut que tu t'installes pendant plusieurs mois. Pas parce qu'il faut, genre, pour devenir une vedette, ça n'a pas rapport, parce que je suis pas devenu une vedette, il aurait fallu que je reste là encore plus longtemps qu'un an. Mais c'est parce que les théâtres veulent pas veulent personne à l'affiche en bas de 3 mois. Faut vraiment que tu t'installes 3 mois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, c'est de même, parce que c'est le temps que ça prend avant que le bouche-oreille pogne un peu, etc. Puis même 3 mois quand ton show marche, pour eux autres, c'est le début de la rentabilité, là. Avant ça, ça vaut pas grand-chose. Ça fait que le premier conseil, par contre, c'est faut que tu trouves une place où aller rester, idéalement avec un Québécois. Pas parce que les Français, je m'entends mal avec. Encore aujourd'hui, j'étais avec Damien, que j'ai connu dans le temps, puis qui vient souvent ici. Puis j'ai plein d'amis en France que je retourne voir au moins une ou deux fois par année, minimum. Puis ça n'a rien à voir. T'sais. Les Français, en tout cas, tant qu'à moi, c'est exactement comme les Québécois. Je vois même pas la différence. C'est juste que ça, c'est comme si la sauce va pogner tout de suite, puis tu vas avoir un coloc avec qui le soir tu rentres, puis tu sais, vous parlez du Québec un peu, etc. En tout cas, bref, si tu peux, sois avec un coloc québécois. Puis il va pas prendre un appart tout seul parce que là-bas, ça coûte une fortune. Puis anyway, encore là, tu n'auras pas des apparts au mois, un an, tu sais. C'est assez compliqué comme situation. Comme je te dis, il faut vraiment vouloir payer le prix. Pas en termes de dollars nécessairement, tu sais, parce que c'était pas rentable, mon opération. En bout de ligne, j'ai peut-être allongé 10-15 000 euros pour faire toutes ces shows-là, ce qui est rien quand tu y penses pour faire toutes ces shows-là. Mais c'était pas rentable. C'est-à-dire qu'il y avait des soirs qui étaient rentables, il y a des soirs, tu sais, c'est en dents d'ici épouvantable. Ils sont tout le temps en congé, les Français. Là, tout à coup, le jeudi, ils ont un congé. Puis là, ils font le pont, ils appellent. C'est-à-dire qu'ils prennent une autre espèce de congé de maladie. Puis là, lundi, puis là, ils sont plus à Paris, puis ils reviennent. Puis... En tout cas, il y a toujours des excuses comme quoi, là. Ah, puis là, tout à coup, ça marche au bout, puis là, ça, c'est normal. C'est une aventure. Je t'avertis, c'est vraiment une aventure. Mais c'est toute une aventure parce que, hey, attends un peu de. D'abord, le premier soir que j'ai fait, je veux pas que le podcast parle de ça. Si vous me le demandez, je vous parlerai vraiment de mon expérience en France plus en détail parce que c'était vraiment fascinant. Mais juste pour déjà fermer la parenthèse, se faire applaudir par des Parisiens qui te connaissent zéro, qui t'ont juste vu sur un site internet, parce que c'est comme ça à Paris que les cafés-théâtres remplissent leurs salles, c'est à travers des sites comme billetsreduc.com, vous pourrez aller voir. Puis les gens magasinent là-dessus, puis les shows sont soit gratuits, moitié prix, ou des fois plein prix, mais quand tu commences, tu mets tes billets gratuits, mais tu mets pas de pub, ça coûte rien. Ça fait que, tu sais, le monde fait, hein, où c'est que tu fais ton argent? Ben, si tu mets de la pub, il faut que tu la rembourses, c'est que tu n'en fais pas d'argent, anyway. Fait que moi, c'est le même que ça a commencé, puis à un moment donné, tu mets quelques billets gratuits, des billets en réduction, etc. C'est vraiment hot. Puis la France, pour revenir à la France comme telle, ce que j'aime, c'est ça, c'est l'intellect français. Moi, je passe des heures par semaine, puis parfois par jour, sur YouTube, à regarder les dernières entrevues des politiciens français puis des philosophes français, des intellectuels français, des débats d'émissions françaises, etc. Constamment. À la maison, j'ai le câble, j'écoute aucune émission. Je me demande si je vais même le garder, parce que, en tout cas, pendant l'été, c'est hallucinant comment je m'en sers pas. Moi, je suis Netflix, je suis baseball, je préfère acheter des abonnements Internet, quitte à ce qu'ils soient un peu plus dispendieux que juste le 11$ de Netflix, mais je m'en sers vraiment. Puis je suis YouTube, vous n'avez pas d'idée comment je suis un consommateur de YouTube, c'est débile. Puis voilà, j'adore ça. Chaque fin de semaine, mon trip, c'est d'aller bruncher. Les samedis, dimanches, sur semaine, bon, pendant mon émission de radio, je prends un café, puis mais je déjeune ici, ou ben, des fois en chemin, je ramasse un petit truc. Mais m'asseoir, vraiment déjeuner, etc., ça, c'est samedi, dimanche. Et puis, j'achète la version du Monde Week-end. Le dimanche, j'achète le Journal du Dimanche, le JDD. Je lis ça exhaustivement comme un malade. Je suis un gros tripeux de la France, mais jamais vous allez m'entendre dire « parce que je trouve que le Québec, c'est pas ci, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. » Ça n'a rien à voir. Mais c'est qu'à la base, moi, je suis quelqu'un qui aime les grandes villes. Donc, quand je vivais à Paris, j'étais vraiment servi. Ma sœur reste à New York. Moi, New York, c'est ma ville préférée au monde. J'ai pas de moyens de vivre là. Je peux pas gagner ma vie là parce que moi, je travaille en français. Mais si je pouvais le moindrement dire « je déménage à New York », je suis parti là, direct. Bang! Ciao! Puis c'est pas « ciao, on se reverra pas ». C'était une heure d'avion, c'est une farce. Ça fait que tu peux venir vraiment à Québec, à Montréal, il n'y a rien là. Mais ça coûte une fortune, puis bon, je ne vois pas quand est-ce que ça va arriver. Le projet que j'ai, par contre, c'est que... Bon, là, j'ai 4 livres d'écrit, bien entendu, je vais en avoir un 5e, mais c'est pas clair avec quelle maison d'édition, etc. Puis le sujet n'est pas super clair non plus. Je pense que ça parlerait du principe de changer de case. C'est-à-dire que ça me fascine beaucoup, là. Puis je le vis vraiment, l'idée de dire, OK, moi, j'ai fait ça, mais là, maintenant, je veux faire autre chose. Ça fait que la difficulté de passer d'un statut auprès des gens à un autre statut, c'est vraiment, vraiment difficile pour tout le monde. Puis ce sujet-là me fascine beaucoup. Puis quand j'écris sur LinkedIn des petits statuts là-dessus, des petits posts, ça reçoit plein de réactions. Tu sais, ça fait qu'il y a vraiment de quoi qui est dans l'air que les gens aimeraient pouvoir dire changer de vie, changer en général. Tu sais, mais moi, j'appelle ça changer de case. C'est-à-dire que les gens te voyaient X, puis maintenant, t'es rendu Y. Puis on voudrait tous le faire, mais les gens nous en empêchent. On s'empêche entre nous autres. C'est comme bizarre, mais en tout cas, bref, j'ai des théories qui se développent là-dessus, là, qui pourraient faire l'objet d'un livre. Et je rêverais d'aller écrire ce livre-là un mois de temps ou deux mois de temps à New York. Je te mets prendre un Airbnb, là, puis là, dire une fois dans ma vie, à défaut d'avoir passé un an comme à Paris, moi, je suis allé pendant, tu sais, un mois, il faut le faire, écrire un livre en un mois, mais s'il est bien préparé, si le plan est hot, je pourrais peut-être vraiment arriver là. Puis tu sais, là, tu fais plus de recherche, là. Tout est fait, tu fais juste comme écrire ton livre. Ça serait vraiment hâte. Ça fait que c'est ça, la France, j'habitais moi sur rue Bachaumont, qui était au coin de Montorgueil. Montorgueil, c'est comme la rue Prince-Arthur, c'est une rue piétonne, c'est un peu comme la rue Saint-Jean, quand il y a ferme juste pour les piétons. Puis c'est fou, tu sais, je veux dire, c'était parfait. Je jouais les lundis, mardis, mercredis au début, puis après je suis tombé le week-end, jeudi, vendredi, samedi. Puis le reste du temps, je travaillais sur mon classeur beaucoup, j'étais sur les médias sociaux pour ma promo, etc. Fait que, tu sais, c'était pas une grosse année à travailler 50 heures par semaine, on se comprend, là, c'était pas de la grosse job, mais je lisais, c'est comme si je me suis claqué un trip, c'est carrément ça, mais qui était fantastique, puis, tu sais, la gang du théâtre, on faisait tous les mardis, on faisait les mardis gazés, donc on allait au bouquet des archives, juste à côté du théâtre des Blancs-Manteaux. Puis moi, je jouais à 7 heures quand j'étais en début de semaine. Mais après ça, il y avait des shows à 9 heures, puis qui finissaient donc à 11. Puis à 11 heures, tout le théâtre se ramassait. Puis ça, c'était des initiatives que je faisais, mais que j'ai toujours faites. J'ai toujours été hyper rassembleur. J'ai toujours organisé des affaires, fait sortir le monde, tu sais. Puis je fais ça avec la gang au FM 93. Puis quand j'ai des gangs de travail ou autre, je suis tout le temps celui qui initie ces affaires-là. Qu'est-ce que tu veux, j'ai ça dans le sang, tu sais. Puis là-bas, je le faisais, c'est que ça s'appelait les mardis gazés. Puis Colin, c'était drôle. Je veux dire, là-bas, le breuvage, ça coûte rien. Le vin, ça coûtait 3 euros un verre. Ça fait que ça finissait à 1h, 2h le matin, en zigzag. Puis on avait déjà hâte à l'autre semaine après. Puis tu sais, il y en avait de tous les âges. Il y en a au théâtre qui étaient plus vieux, il y en a qui étaient plus jeunes. C'était vraiment génial. Ça fait que la France, j'aime beaucoup. Vivre à Paris, c'est pas nécessairement fantastique parce que tout est exigu, tout est étroit. Le confort à Paris, ça coûte extrêmement cher, alors que le confort en Amérique du Nord, à part dans des villes comme New York, mais même à Montréal, ça coûte une fraction du prix qu'ailleurs au Canada. Puis par rapport à New York, ça se compare même pas. Tu sais, je veux dire, ça coûterait combien un condo où moi je suis là, en plein quartier des spectacles? Ça veut dire c'est dans Times Square. Tu sais, je veux dire, j'ose même pas penser combien ça coûterait un 1000 pieds carrés. C'est 1,5 million, je suis sûr. Là. Ça fait que, tu sais, c'est ça. Donc, Paris, c'est le confort, il coûte une fortune, Puis règle générale, il y en a peu. Puis c'est bruyant, tu sais. Mais c'est tellement beau, ça a de la vibe. Je sais pas si vous êtes allé, mais en tout cas, allez à Paris. T'es même pas obligé de rester une semaine. Tu peux aller en France en général, rester peut-être 3 jours, 2 nuits à Paris, puis c'est tellement top. Puis tu marches à Paris, c'est débile. Les rues sont tout croches, remarque. Tu penses que tu t'en vas vers l'est, mais à un moment donné, t'as fait un détour de 2 ans. puis tous les petits bistrots, tout ça. Puis ceux qui disent que Paris, c'est cher, c'est pas vrai. C'est totalement faux. Pour habiter, c'est une fortune, OK? Right? Mais là, tu peux t'organiser Airbnb puis tout ça, là. Mais une fois que le logis est réglé, je suis désolé, même avec l'échange, puis il y a beaucoup de choses qui sont moins chères, qui, même avec l'échange de l'euro et du dollar canadien, coûtent moins cher. Puis tu vois, regarde, je restais dans le deuxième, là, ça coûte cher en tabarouette, puis Montorgueil, c'est pas la rue la moins chère, mais il y avait plein de petits bistrots où, sérieux, on s'en tirait vraiment à très bon prix. Très, très, très bon prix. Et on mange bien. Oh my God, j'ai toujours dit, les Français savent pas mal faire à manger. Ils pourraient faire un concours, ce qu'il y a de plus dégueu, puis on ferait miam, 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 comme c'est bon. L'image que je prends, puis je vous le jure, là, même les sandwichs dans le métro sont succulents. Puis c'est pas une farce. Ça s'appelle, je sais plus c'est quoi le nom, c'est comme les sandwichs Martel, nous autres, qui sont pas mangeables. C'est des sandwichs de whatever, là. Puis ça coûte, en plus, ça coûte 2,50 euros, 3 maximum. Hey, le pain multigrain, le jambon de Parme avec le c'est extraordinaire. Tu pourrais te nourrir que des sandwichs de métro puis tu dirais que c'est la meilleure au monde. Pour vrai, là. Ah, c'est vraiment génial. Ça fait qu'en tout cas, bref, aujourd'hui, je voulais faire un court hommage et dire bonjour à tous mes amis. Antoine Pétavin, qui est aussi mon partner dans mon classeur. Damien, qui était là en visite pour le fun que j'ai vu aujourd'hui. On était allé voir le spectacle des choristes en passant. Tiré du film, comédie musicale montée par Serge Denoncourt dans Juste pour rire. C'est bon, à tabarouette. C'est extrêmement fidèle au film. C'est vraiment, vraiment super. C'est à la salle Pierre-Mercure, là, au centre Pierre-Péladeau. Je recommande chaudement. Ça fait que... Donc, c'était ma journée sous le thème Vive la France. Et puis, je vous dis à bientôt là-dessus.